vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu The Last of Us Part 2. Je sais, j'ai 3 ans de retard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. On aura ensuite un petit point sur les sorties, les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. On aura une news concernant le jeu Avatar Frontiers of Pandora. Une news technologie avec un bug qui a permis à des clients d'une banque en Irlande de retirer plus d'argent qu'ils n'en avaient sur leur compte. Et on finira avec les sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec le test de The Last of Us Part 2. Donc c'est un jeu vidéo d'action-aventure en vue à la troisième personne qui est jouable en solo, de type survival horror et se déroulant dans un monde post-apocalyptique. Développé par Naughty Dog, réalisé par Neil Druckmann, Anthony Newman et Kurt Margenau, scénarisé par Neil Druckmann et Ali Gross, avec la musique que vous entendez de Gustavo Santaolalla et McQuail. Le jeu a été édité par Sony Interactive Entertainment et il est sorti le 19 juin 2020 sur PlayStation 4, plus de 3 ans après son annonce officielle le 3 décembre 2016. Il s'agit donc de la suite du jeu The Last of Us du même studio. Le jeu fait suite aux aventures d'Ellie et Joël à travers les États-Unis en ruine du fait d'une épidémie de cordyceps. 4 ans après le premier opus, un événement malheureux survient, bouleversant profondément Ellie. Elle se lance alors dans une quête de vengeance qui la transformera à jamais. Le jeu est classé PEGI 18 et il obtient une note de 19 sur 20 de la part de jeuxvideo.com pour une note globale de 93 sur 100 sur Metacritic. The Last of Us est un jeu aux influences ouvertement cinématographiques et nourri par son envie de raconter une histoire poignante entre un homme et une jeune fille, sur fond de pandémie ayant décimé la plupart des êtres humains. Quand on y regarde de plus près, le titre de Naughty Dog n'innovait pas vraiment dans son gameplay, ni même ses références, le tout se situant à la croisée des chemins de I Am Legend et de La Route. Pourtant, The Last of Us est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre. Comment expliquer cet état de fait ? S'il tient tout d'abord au ressenti personnel de l'histoire, il passe également par le travail sur ses personnages principaux, dont la relation évoluera tout au long du jeu jusqu'à faire naître des émotions perdues chez Joël à l'égard d'Ellie, passant de simple colis à un substitut de sa fille perdue. Dès lors, le réalisateur Neil Druckmann, aidé de la scénariste Ali Gross, n'aura de cesse de jouer sur cette corde sensible en confrontant son duo aux atrocités d'un monde où la barbarie omniprésente a entraîné une notion cruciale de survie ayant depuis longtemps modifié les comportements humains. Émouvant et sanglant, The Last of Us aura marqué les joueurs par la justesse de ses situations et la subtilité de sa narration. Reprenant le récit 4 ans après la fin du premier volet, la partie 2 va tout au long de son intrigue s'attacher à nous décrire ce qui s'est passé durant cette ellipse temporelle, afin de mieux nous faire comprendre le parcours d'Ellie et de Joël, tout en introduisant le fantastique personnage d'Abby, la nouvelle antagoniste de cette seconde partie. À l'image de ce monde post-apocalyptique ayant redéfini les fondements même des rapports entre individus, les différents protagonistes de cette suite ont dû s'adapter, changer, parfois au-delà de leurs propres convictions pour survivre. Alors que le premier The Last of Us s'articulait autour de l'affrontement entre la milice des Lucioles et les forces militaires de la Fedra, la partie 2 rabat les cartes en intégrant 2 autres groupuscules, le Front de Libération de Washington et les Scars, menés par une mystérieuse prophète. Posant une toile de fond plus ample, ce second épisode ne cessera d'alimenter nos réflexions en créant des jeux de miroir entre les vies d'Ellie et d'Abby. Si Druckmann et Gross n'arrivent pas toujours à offrir une véritable légitimité à certains personnages secondaires en les creusant suffisamment, ils parviennent une fois de plus à humaniser nos ennemis en ne les présentant nullement comme de vulgaires cibles à abattre, mais au contraire en leur offrant une véritable épaisseur, un passé, des convictions et une raison d'être. À l'image de David dans The Last of Us, Abby n'est pas qu'une simple guerrière mue par un désir irréfléchi de violence. Ainsi, tout au long de l'aventure, on apprendra à la connaître, à l'apprécier même, ceci étant sans doute la plus grande force du jeu, mettant constamment en perspective ce qu'ont vécu ces personnages pour mieux nous amener à réfléchir au sens de nos actions. Misant à nouveau sur un aspect road movie, la partie 2 use des ressorts propres au genre pour développer une histoire d'amour, tout en conservant ce qui a cimenté le premier épisode, la relation entre Ellie et Joël. À l'image de ce qu'avait déjà fait le DLC Left Behind, The Last of Us Part 2 nous replongera à plusieurs reprises dans le passé via différents flashbacks. Tantôt terrifiant, tantôt émouvant, ces passages servent parfaitement la narration en se posant comme autant de moments de vie ayant construit une relation basée sur l'amour d'un père qui ira jusqu'à se transformer en mensonge, en égoïsme, afin de prolonger ce bonheur, quitte à sacrifier une nouvelle fois l'humanité. Tout en évoquant le passé, la partie 2 offre également un présent à son casting. Ellie notamment est prise de Dina, un très beau personnage féminin campé par Shannon Woodward, toujours juste dans son interprétation. La relation unissant les deux jeunes femmes sert ainsi de contrepoids à une réalité bien plus dure, synonyme d'affrontements brutaux, qui émailleront le voyage des jeunes femmes de Jackson à Seattle. La partie 2 est l'occasion pour Naughty Dog de nous offrir l'un des plus beaux jeux de la PS4 par le biais de décors semi-ouverts, proprement majestueux, et de scènes plus claustrophobiques, noyées dans une obscurité chargée de spores et des teintes rougeâtres des plus anxiogènes. Bien plus éclectique que le premier volet, The Last of Us Partie 2 accumule les lieux dépeignant avec Maestria un univers exsangue, à travers des villes dévastées, immeubles en ruine ou sous-sols suintants. Profitant de magnifiques jeux de lumière, le titre se complaît dans une variété environnementale étonnante, nous poussant à nous arrêter constamment pour admirer le travail des artistes. Si d'un point de vue macro, cette suite ne souffre quasiment d'aucun défaut, elle étonne également au niveau des animations faciales. Les expressions criantes de réalisme simulent l'effort, la joie, mais aussi la souffrance qui se lisent sur le visage des protagonistes, qu'ils soient centraux ou non, et ce aussi bien à travers un dialogue qu'une still skill. La technique sert ainsi la narration en offrant aux moments intimistes ou aux accès de rage une crédibilité de chaque instant, renforçant parfaitement l'immersion. Sur ce point, mentionnons aussi la gestion des dégâts, les ennemis pouvant être démembrés ou perdre une moitié de leur visage en fonction de l'impact des balles. Les animations corporelles ne sont pas en reste, et si on décèle quelques imperfections, la grosse majorité font montre d'une véritable souplesse, rendant les empoignades ou gestes plus communs parfaitement réalistes. Voilà, on va faire une petite pause dans ce test, on va s'écouter une chanson extraite de l'OST du jeu, c'est Little Sadie, interprétée par Crooksteel, et on revient juste après.
Went out one night to make a little round. I met little Sadie and I shot her down. Went back home, jumped into bed, 44 pistol under my head. I woke up in the morning about 9:30. The hacks and the buggy standing in line. Gents and gamblers standing around, taking little Sadie to bury in the ground. Just a little too slow. They overtook me in Jericho. Standing in the corner reading a bill, and up stepped the sheriff from Thomasville. He said, "Miss, is your name Brown? Remember the night you shot Sadie?" Downtown, it dressed me in black, put me on a chain and started me back all the way back to the Thomasville jail. Had no money for to go my bail. Judge had the papers in his right hand. 41 days, 41 nights, 41 years to wear the ball and stripes. Went out one night to make a little round. I met little Sadie and I shot her down. Went back home, jumped into bed, 44 pistol under my head.
« c'était la chanson Little Sadie de Crooksteel, une chanson extraite de l'OST du jeu The Last of Us Part 2. On commence donc la deuxième partie de ce test. D'un strict point de vue de la construction, la partie 2 n'innove pas vraiment et une impression de déjà-vu se fera forcément ressentir, d'autant que durant la trentaine d'heures qui vous seront nécessaires pour boucler l'aventure, le schéma restera identique. On naviguera donc constamment entre séquences faisant évoluer l'histoire et traversées d'un lieu donné, l'objectif à atteindre passant automatiquement par la découverte d'innombrables lieux propices à des échauffourées avec des infectés, des Scars ou les Wolves. Comme dans la partie 1, la façon d'opérer sera sensiblement différente en fonction des ennemis, bien que le jeu nous enjoigne à utiliser l'infiltration plutôt que l'approche directe, tant on aura tôt fait d'être rapidement débordé. Si le tout fonctionnait plutôt bien dans The Last of Us, malgré un vrai classicisme, l'intelligence artificielle ennemie n'était pas au diapason et notre compagnon invisible aux yeux de nos ennemis provoquait parfois des situations des plus cocasses. Bien que toujours imparfait, la partie 2 fait grandement évoluer les choses. Ainsi, lorsque nous sommes épaulés par un partenaire, ce dernier se placera de façon plus réaliste et se montrera bien plus utile en blessant ou en achevant nos adversaires au moment opportun. Donc ça n'a l'air de rien, mais croyez bien que ceci ajoute une dimension plus convaincante à ces phases de gameplay. Il faut aussi comprendre que Naughty Dog a travaillé sur quasiment tous les aspects de ces séquences afin de leur insuffler une tension constante, aidée en cela par les compositions de Santa Olalla, servant de pouls réguliers à l'action. L'aspect sonore, en plus de marquer la mesure, nous renseignera aussi sur le degré de menace. La musique est discrète mais omniprésente tant que nous ne sommes pas repérés, s'emballant prestement dès lors qu'un ennemi nous voit. Une fois encore, l'immersion s'avère incroyable, d'autant que les gardes ne manqueront pas de communiquer entre eux, de siffler pour marquer leur présence ou d'hurler le nom d'un de leurs camarades abattus. Dès lors, le chassé deviendra le chasseur, ceci nous poussant à varier les plaisirs en utilisant tous les moyens mis à disposition pour écrémer les rangs ennemis. On aura alors de cesse de jongler entre les différentes armes disponibles, de se cacher dans les hautes herbes pour surprendre nos adversaires, ou même de retourner à certains moments les infectés contre les miliciens, à l'image de ce que Days Gone proposait déjà. On reprochera malgré tout que la technique consistant à jeter un objet vers un ennemi pour le déstabiliser afin de l'éliminer d'un seul coup soit toujours trop efficace, même dans les niveaux plus avancés où les adversaires seront mieux équipés. Anecdotique cependant, puisque cette fois les ennemis seront plus difficiles à contourner ou à appréhender grâce à des routines plus évoluées ou bien encore les chiens de garde pouvant nous flairer et nous suivre sur de longues distances. Il conviendra alors de les éliminer en premier et ce même si cela vous fendra à chaque fois le cœur. Difficile également de ne pas encenser le travail sur le level design, que ce soit en usant des différents étages des bâtiments ou des zones plus ouvertes, propices au retrait pour mettre en place une stratégie, la partie 2 offre toujours aux joueurs une pluralité de chemins. On regrettera tout de même que les passages sous-marins n'aient pas été davantage mis à profit. Ce souci du détail se retrouve également dans une mécanique issue du premier volet, nous demandant de trouver des matériaux pour améliorer nos armes, que ce soit dans des coffres ou bien encore dans des zones accessibles en résolvant quelques énigmes basées sur la physique. En effet, pour upgrader notre équipement, il nous faudra trouver des établis synonymes d'une multitude d'animations associées. Ici aussi, cela peut sembler secondaire, mais voir Ellie allumer une lampe avant de commencer à bricoler ou changer chaque pièce de l'arme qu'elle améliore rend ces passages communs bien plus ludiques. Le système d'upgrade, justement, a été légèrement repensé. Désormais, vous ne pourrez améliorer qu'une seule fois chacun des éléments de vos armes en utilisant un unique type de ressources. Bien entendu, on pourra encore crafter divers items via un système hérité du précédent volet. Enfin, le switch rapide d'armes-objets liés à la croix directionnelle n'a pas évolué, et pour peu que vous trouviez des holsters, il sera possible de le faire plus rapidement. Enfin, il conviendra d'améliorer vos capacités. Ici aussi, peu de changements par rapport à ce que proposait The Last of Us, puisqu'il vous faudra trouver des magazines synonymes d'arbres de compétences, puis utiliser des pilules pour débloquer les skills afin de gagner en résistance, d'affiner la perception de vos ennemis, etc. Tout efficace qu'est le gameplay, on reprochera toutefois quelques affrontements parfois confus à cause d'une absence de lock ou des affrontements contre des ennemis plus imposants, assez quelconques à cause de patterns trop faciles à analyser. Pour autant, chaque combat sera l'occasion de ressentir une excitation certaine, d'autant que le jeu s'avère rarement punitif grâce à un système de checkpoints bien pensé. La survie passera donc aussi bien par l'exploration, indispensable pour améliorer ses attributs et son équipement, que l'affrontement face à des ennemis plus intelligents ou des infectés, dont les nouveaux venus vous procureront quelques montrées d'adrénaline. Haletantes, les rixes se ponctueront parfois par des choix moraux n'ayant finalement aucun impact. En effet, de façon aléatoire, le dernier membre d'une escouade en vie nous suppléera de l'épargner, le choix de l'éliminer ou non se soldant de toute façon par sa mort. Une idée pour le moins étrange, fragilisée par l'obligation constante de tuer et devenant d'elle-même caduque dans la destinée de nos héros, régulièrement poussés dans leur dernier retranchement. Au-delà de cette façon un peu superflue de nous rappeler que le concept de moralité est ici central, The Last of Us Partie 2 met constamment dans le mille, que ce soit à travers son scénario, ses thématiques ou son gameplay. Piochant dans divers genres cinématographiques, du film d'horreur à celui d'aventure en passant par le film de guerre, le titre de Naughty Dog fait montre d'une créativité sans faille afin de maintenir l'intérêt du joueur du début à la fin. Généreux de bout en bout, trouvant un équilibre pourtant précaire entre sauvagerie et tendresse infinie, cette suite se laisse savourer jusqu'à son plan final, simple, mélancolique et d'une véritable justesse. Donc pour résumer les points forts du jeu, on a la qualité d'écriture des personnages, l'absence de manichéisme, les décors somptueux profitant de tonalités plus disparates, le level design qui est très réussi, le mélange plus harmonieux des genres, on a un gameplay bien plus efficace, les compositions de Gustavo Santaolalla qui sont discrètes et qui servent de pouls aux scènes d'action, une version française et un sound design de grande qualité, et on a entre 25 et 30 heures de durée de vie de jeu. Pour les points faibles, on a l'effet de surprise qui n'est plus vraiment là, la narration qui s'étire quelque peu en longueur dans son dernier tiers, quelques rebondissements et séquences un peu forcées, des phases sous-marines sous-exploitées, et certaines séquences d'action qui peuvent paraître inutilement longues. Voilà, du coup on va pouvoir terminer ce test avec une autre chanson extraite de l'OST du jeu, c'est Through the Valley, interprétée par Ashley Johnson, donc la doubleuse d'Ellie, et on revient juste après.
Valley of the shadow of death, and I fear no evil, because I'm blind to it all, and my mind and my gun, they comfort me, because I know I'll kill my enemies when they surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walk beside the still waters and they restore my soul, but I can't walk on the path of the right, because I'm wrong. Well, I came upon a man at the top of a hill, called himself the savior of the human race. He said he'd come to save the world from destruction and pain, but I said, how can you save the world from itself? Thank you.
Donc c'était Ashley Johnson avec la chanson Sug the Valley, une chanson extraite de l'OST du jeu The Last of Us Partie 2, et donc Ashley Johnson qui est la doubleuse d'Ellie. On va faire une petite pause publicité et on reviendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, une news jeux vidéo, une news technologie, et on finira avec les sorties de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch. On a en 5ème place Pikmin 4 sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 4ème place c'est Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard sur PS5, un jeu de Warner Bros. Interactive Entertainment. En 3ème place c'est Gran Turismo 7 sur PS5, un jeu de Sony. En 2ème place c'est Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Et en première place, c'est The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Le top 3 pour la PS5, on a en troisième place Armored Core 6 Fires of Rubicon, l'édition de lancement. En deuxième place, c'est Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Et en première place, Gran Turismo 7. Pour la Xbox Series, on a en troisième place Armored Core 6 Fires of Rubicon, l'édition de lancement. En deuxième place, Diablo 4, et en première place, Forza Horizon 5, l'édition Premium. Pour la PS4, on a en troisième place The Last of Us, la partie 2, en deuxième place, Gran Turismo 7, et en première place, Hogwarts Legacy. Pour la Xbox One, on a en troisième place Grand Theft Auto 5, la Premium édition, en deuxième place, FIFA 23, et en première place, Hogwarts Legacy. Le dernier top, c'est le top 3 PC, avec en troisième place les Sims 4 Une Vie au Ranch. En deuxième place, c'est Minecraft Java and Bedrock. Et en première place, c'est Microsoft Flight Simulator, l'édition Premium Deluxe. On passe maintenant à la news jeux vidéo, donc licence on ne peut plus juteuse pour Disney. Avatar compte revenir en force cette année, non pas avec un film, mais avec un jeu vidéo baptisé Frontiers of Pandora. Une nouvelle bande-annonce a justement été diffusée hier soir lors du State of Play. Donc lors de la sortie du premier film en 2009, 20th Century Studios s'était dégoté un partenariat avec Ubisoft pour la production d'une adaptation en jeu vidéo, alors sortir sur PC, PS3, Xbox 360, Nintendo DS, Wii et même sur PSP. Voilà, ça nous rajeunit pas. Presque 15 ans plus tard, cette même alliance est à retrouver puisqu'Avatar Frontiers of Pandora est de nouveau concocté par Ubisoft. Pour le coup, le jeu comptera une histoire parfaitement inédite, celle d'une Navi élevée par les humains qui décidera de protéger les siens sur Pandora et de se rebeller contre l'envahisseur 15 ans après son enlèvement. Bon, ce n'est pas unique sur le plan de l'originalité, mais les personnages, eux, sont bel et bien nouveaux. L'occasion d'aller se balader librement dans les environnements fabuleux de cette planète, particulièrement connectée à ses habitants. Donc le trailer diffusé hier soir lors du State of Play de Sony donne le ton. Le jeu misera aussi bien sur l'exploration à dos de bêtes extraterrestres, volantes ou non, que sur l'action pure et dure avec une bonne dose d'infiltration. Un Far Cry sur une planète alien, il y a un peu de ça, surtout que le titre se fera à la première personne, avec quelques armes bien senties, dont l'arc qui sera visiblement prédominant. On devrait y retrouver la plupart des éléments qui ont fait le succès des films au cinéma, à commencer par une plastique de premier ordre. Avatar Frontiers of Pandora arrivera donc le 7 décembre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, soit l'un des premiers titres d'Ubisoft à laisser de côté la PlayStation 4 et la Xbox One. On espère donc en prendre plein la vue. On passe maintenant à la news technology. Une panne technique survenue récemment à la Bank of Ireland a déclenché un événement inhabituel. Elle a en effet temporairement permis aux clients de retirer de l'argent, même si leur compte en banque ne contenait pas les fonds nécessaires. Donc durant quelques heures le soir du 5 septembre dernier, une défaillance technique à la Bank of Ireland a permis aux clients d'effectuer des retraits allant jusqu'à 1000 euros, alors que les comptes en question ne disposaient pas d'un solde suffisant pour couvrir ces retraits. La banque a réagi rapidement, qualifiant l'incident de problème technique et y remédiant dans la nuit. Des centaines de clients se sont forcément précipités au guichet automatique pour bénéficier de cette aubaine. La police a dû intervenir pour encadrer les foules qui se formaient devant les distributeurs. La banque a toutefois prévenu les clients que les retraits effectués pendant le bug seraient bien débités de leur compte et les a donc invités à la contacter s'ils se retrouvaient en difficulté financière. Voilà, c'est pas bien de profiter des bugs. Le ministre irlandais des Finances, Michael McGrath, a demandé à la banque de fournir un compte-rendu complet de ce qui s'est passé. En effet, en tant que premier prêteur du pays en matière d'actifs, la Bank of Ireland représente un pilier majeur du secteur financier irlandais et toute faille potentielle soulève des questions quant à l'impact plus large. La dépendance croissante de l'Irlande à l'égard de la technologie pour les services financiers a été soulignée par cet événement. Michael McGrath a mis en évidence l'importance des services bancaires ininterrompus pour la vie quotidienne des individus et le fonctionnement des entreprises. La banque s'est quant à elle excusée sur Twitter et a reconnu qu'elle n'avait pas répondu aux attentes de ses clients. Néanmoins, cela nous rappelle que toute technologie, même lorsqu'elle est intégrée dans des structures financières critiques, peut connaître des défaillances. Voilà, du coup on va pouvoir terminer cette émission avec les sorties jeux vidéo de la semaine. On a eu une sortie aujourd'hui vendredi 15 septembre avec Baten Kaitos 1 et 2 HD Remaster sur Switch. On aura ensuite des sorties pour mardi 19 septembre avec Mortal Kombat 1 sur PC, PS5 et Xbox Series, Lies of P sur PC, PS5 et Xbox Series et The First Descendant sur PC, PS5 et Xbox Series. On aura une autre sortie pour mercredi 20 septembre sur PC avec Witchfire. Et enfin, les dernières sorties de la semaine, ça sera pour jeudi 21 septembre avec Payday 3 sur PC, PS5 et Xbox Series et Resident Evil 4 Separate Ways qui sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission Asian Bubble que vous pourrez retrouver lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchéfette.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.